Il est 19h05, bon début de soirée à tous. Je salue particulièrement tous les gens qui sont sur la route des vacances au Québec. Vous savez, hier à notre émission, j'ai eu le plaisir de recevoir Louis Borfiga, qui est vice-président au développement de l'élite de tennis Canada. Puis on a parlé ensemble des jeunes joueurs canadiens qui sont sur la montée, Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime. Mais on sait que pour Shapovalov, ça va un peu moins bien depuis que Martin Laurendeau n'est plus son entraîneur. Et avec moi, j'ai Martin Laurendeau. Salut Martin!
Oui, salut Philippe.
Martin, j'aimerais que tu écoutes ce que Louis Borfiga a dit à propos de la décision de Denis Shapovalov de ne plus t'avoir comme entraîneur.
Je pense aussi que le fait d'avoir laissé Martin était une erreur, parce que Martin l'avait quand même extrêmement fait progresser. Il y avait vraiment une très bonne entente entre les deux, puis Martin avait une, je dirais, la vraie vision de son jeu, c'est-à-dire qu'il savait comment l'amener. Donc, je pense
qu'il n'aurait pas dû. Hein.
Non, il aurait, à mon avis, il n'aurait pas dû laisser tomber Martin.
Comment tu réagis à ça, Martin?
Ben oui, mais c'est mon patron, il est obligé de parler en mien de moi.
Oui, mais on connaît tous les deux suffisamment Louis Borfiga pour savoir que quand il dit quelque chose, il le pense.
Oui, ben écoute, ça fait déjà un an de ça, avec le temps passe vite et puis... tout ça aussi, ça s'est déroulé assez vite là. Quand j'ai eu un mal de dos qui est apparu de nulle part juste avant Wimbledon, puis
l'an dernier, bien sûr.
L'an dernier, puis là, il a fallu que je prenne une pause. Vraiment, j'étais incapable de bouger, de me lever du lit, puis j'ai été 7-8 semaines là vraiment alité. Donc évidemment, c'est ça. Je suis plus présent. Les tournois continuent, la vie continue, les performances doivent continuer. C'est vrai que quelques semaines après, j'apprenais que là, Denis avait trouvé quelqu'un d'autre, puis enchaîné avec un autre entourage. Mais c'est comme ça.
Bon, est-ce que tu lui parles encore à Denis Shapovalov occasionnellement?
Non, on s'est pas parlé parce que bon, quand on a un entourage, c'est un peu restreint là, comme équipe, et puis il faut respecter ça. On a eu 18 mois vraiment très productifs, et puis je sais qu'est-ce que c'est là, que quand on est vraiment concentré sur les objectifs, puis on doit performer, on veut être l'équipe ensemble, le physio, le coach de fitness, et puis l'entourage très très proche. Alors quand je suis sorti de cette dynamique-là, ben c'est... Je dois respecter la nouvelle équipe, le nouvel entraîneur, et puis c'est faut passer à d'autres choses.
Ouais, t'en parles avec beaucoup de sagesse et de recul aujourd'hui, mais bon, je sais très bien que quand c'est arrivé, ça t'a fait mal, Martin. Il n'y a absolument aucun doute. Tu m'avais dit à l'époque que tu ne gardais que de bons souvenirs de ton association avec Denis Shapovalov, mais que tu restais sur ton appétit du côté tennistique, parce que pouvoir encadrer un talent aussi génial que le sien, c'est un peu l'occasion d'une vie. Alors, depuis que Denis Shapovalov a changé deux fois d'entraîneur, il y a eu beaucoup d'ennuis. Là, Martin, j'aimerais ça que tu enlèves ton chapeau d'ancien coach, que tu mettes celui d'analyste et que tu nous dises quel est le problème.
Oui, mais ça, c'est pas tout à fait anormal. On voit souvent, pas juste chez lui, mais sur plein d'athlètes là, qui montent rapidement. La première année, c'est une année où est-ce qu'on a tout à gagner, puis la vie est belle, le circuit est nouveau, on est un peu incognito sous le radar, puis on peut surprendre beaucoup de joueurs là parce qu'ils ils nous connaissent pas vraiment beaucoup, tactiquement parlant, et puis chaque expérience est une nouvelle découverte. Donc il y a des lunes de miel comme ça avec son travail puis ses performances sur le terrain qui fait en sorte que quelqu'un peut être super productif. La deuxième année qui est maintenant, parce qu'il y avait vraiment commencé ici à Montréal là il y a deux ans.
Donc c'est ça, c'était une demi-saison.
Oui, c'était des futurs, des challengers, c'était un niveau inférieur, mais vraiment le gros niveau avec les vrais pros, c'est il y a deux ans. Donc c'est sa deuxième année sur le circuit, et puis les attentes sont beaucoup plus exigeantes, tant lui envers lui-même que du public. Et il y a aussi qu'on peut plus surprendre. Les gars ont fait le tour du vestiaire, on sait comment jouer Denis maintenant. Et puis il y a beaucoup de points à défendre. Donc pour que Denis continue à monter, il doit faire aussi bien, sinon mieux. Puis ça, c'est une grosse commande avec tous ces éléments qui sont là. Donc c'est vraiment, on le voit souvent. On monte en fusée. ça se stabilise un peu, puis après ça, ben on redécolle, on fait un deuxième stage, disons, vers l'avant, puis j'espère pour lui que là, ça va être cet automne ou cet été même. L'été est même pas terminé. Donc, il y a encore beaucoup de tennis à jouer pour lui cette année, mais il faut aussi passer par les défaites pour apprendre, pour savoir qu'est-ce qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Puis, on apprend même, selon moi, beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire. Donc, tout ça n'est pas mauvais non plus.
Vraiment? C'est pas un cliché de dire ça? On apprend vraiment plus dans la défaite?
Ben oui, parce que une carrière est quand même longue, puis on peut pas juste vivre que de victoires. Prenez même un gars comme Roger Federer a perdu pas loin de 400 fois dans sa carrière.
Ben, voilà.
Ça fait pas mal de fois où est-ce qu'il va au filet, il serre la main de l'adversaire, puis qui est déchu. Donc ça nous donne une bonne référence sur où est-ce qu'on est. Puis je pense aussi que c'est certain que Félix, quand on le voit aller, il gagne beaucoup cette année, mais quand il perd, ça l'affecte beaucoup. Ouais. Il retourne sur le terrain, même de par lui-même, sans ses coachs. Il sait qu'il doit améliorer des choses, puis il a juste hâte de continuer sa progression, d'améliorer des choses, puis de retourner sur le terrain pour voir si il a bien maîtrisé ce qu'il doit maîtriser. Donc, moi, c'est une philosophie de sportif. Puis, on oublie aussi les jeunes, Denis et Félix, et on dirait qu'ils sont des vétérans parce qu'ils sont dans les journaux à toutes les semaines, à la télévision, puis on dirait que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais c'est vraiment ils sont très jeunes par rapport à la profession qu'ils pratiquent. Et il faut vraiment, ça prend du temps à rouler sa bosse. Même un joueur comme Zverev qui a eu deux bonnes années sur le circuit, puis que là, qui perd beaucoup plus souvent, fait beaucoup de premiers tours, deuxième tour. Pourtant, il a été, quatrième mondial.
Ouais. On sent qu'il y a de la misère à gérer ça aussi, Zverev. On le sent un peu perdu. Puis ça me rappelle un peu ce que Federer disait après sa défaite crève-cœur le week-end dernier contre Djokovic à Wimbledon. Et bon, il rate la chance de remporter ce tournoi majeur-là. Il y a des balles de match sur son service et tout. Puis après, malgré sa déception, il a dit « J'ai au moins une faculté, c'est celle d'oublier vite, de passer à autre chose. » Et ça, c'est un atout pour un athlète, pour un joueur de tennis.
Oui, puis chacun a sa façon de gérer le succès, gérer les défaites, gérer les blessures, gérer les contre-coups, gérer les attentes, gérer la pression. Donc, il y a beaucoup qui se passe au-delà de juste frapper des coups droits, puis des revers, puis des services. Puis les champions, comme Federer l'a mentionné, ils apprennent, ils passent, ils font une révision rapide, ils savent comment mieux faire la prochaine fois, puis ils l'appliquent tout de suite. C'est ce qui fait qu'ils ont rarement des longues séquences de défaites. C'est une défaite par-ci, par-là, puis le reste, c'est des victoires. Mais eux aussi apprécient la défaite, même si c'est des grands champions qui carburent beaucoup avec les victoires puis les titres et tout, mais il reste que dans la défaite, tout le monde qui est professionnel sait qu'on grandit beaucoup plus, puis que les victoires, c'est le fun, c'est agréable. Mais sur une semaine, un tableau de 64 joueurs, il y a 63 qui perdent, il y en a un qui gagne, puis presque tout le temps, on arrive dans un tournoi, puis c'est pas qu'on anticipe de perdre, mais c'est très rare qu'on arrive à soulever le trophée, puis quand ça arrive, c'est une semaine de rêve, mais à défaut de quoi, on aura à l'intérieur de ça des victoires ou des défaites, puis il faut gérer tout ça.
Je suis en compagnie de Martin Laurendeau, entraîneur de l'élite à Tennis Canada. Martin, si tu avais un conseil aujourd'hui là, à donner à Denis Shapovalov et à Félix Auger-Aliassime, qu'est-ce que tu leur dirais à ce moment-ci de la saison? Ça serait
Je leur dirais de continuer à côtoyer les grands champions, parce qu'eux, ils se mesurent vraiment au top 10 puis au top 5. C'est là qu'ils veulent être. Donc, les modèles qui sont devant eux, c'est ceux qui ont réussi à le faire sur plusieurs années. Donc, de prendre exemple là, sur comment les champions gèrent le calendrier, gèrent les entraînements, puis les moments qui se reposent, les moments où ils s'entraînent très, très, très fort. Pas trop surcharger les calendriers, tout ça. Donc, on apprend beaucoup des champions, puis je pense qu'eux autres, c'est vraiment la référence pour eux autres de continuer d'essayer de s'entraîner le plus possible avec eux, de les côtoyer, puis d'apprendre leurs secrets là, au fil des années.
Est-ce que c'est un peu écrasant pour eux de voir encore Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dominer autant la scène du tennis alors qu'ils sont dans la trentaine avancée dans le cas de Federer. Mais est-ce que tu penses que c'est comme encore trop pesant la présence des trois superstars devant?
Non, je peux pas parler pour eux, mais je pense pas qu'ils doivent le regarder comme ça parce que il y a presque deux générations entre les deux, tellement qu'il y a une différence d'âge puis disons d'expérience là, dans le bagage. Eux, je crois qu'ils devraient regarder ça, puis je pense que même Félix l'a mentionné, ça les encourage, ça devrait les encourager à dire il me reste beaucoup d'années devant moi, il me reste beaucoup de tennis, puis il me reste beaucoup d'opportunités devant moi. Puis en sachant que ces gars-là ne vont pas non plus, ils sont encore à un niveau incroyable, mais ils savent qu'ils vont pas durer un autre 5-10 ans, probablement pas. Et puis que quand leur fenêtre va se présenter devant eux, mais qu'ils soient tout près derrière la porte pour saisir l'occasion, parce qu'il va avoir des trous, là. C'est une question de temps, mais quand est-ce que ça va arriver? Ça c'est un trio, puis même avant, il y avait un quatuor, mais Andy Murray s'est buté constamment. Il a perdu, je pense, 7 ou 8 finales avant de gagner son premier Grand Chelem. Donc, il faut être prêt pour quand l'opportunité passe. Puis, pour ces joueurs-là, je pense que c'est plus une motivation de voir quelqu'un comme Federer, puis même un gars comme Nadal, qui a beaucoup de millages encore, qui a gagné énormément, Djokovic aussi, à quel point il demeure professionnel, qui arrive à performer sous pression, grand chelem après grand chelem, gros tournoi après gros tournoi. Donc, c'est plutôt encourageant pour eux que de dire, mais là, on n'a pas de chance de gagner un grand chelem.
En effet, c'est la bonne attitude. Martin Laurendeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à toi, Philippe.
OK, salut.